Magnifique de se retrouver à l'antenne de Radio Galère avec nos émérites techniciennes Swan et Camia, que je remercie pour leur présence et pour leur participation active et très très efficace. Je salue Habib.
Salut Bernard, salut voilà. les jeunes filles. Et salut les auditeurs.
Voilà, et salut les auditeurs. On a une pensée pour Roselyne qui a une jambe presque immobilisée, donc qui est en souffrance, mais ça ira mieux la semaine prochaine. Et donc on va commencer une émission très très abondante avec beaucoup beaucoup de nouvelles. Mais je vais commencer par un cas extrêmement intéressant, c'est-à-dire que vous avez certainement suivi le fait qu'il y a eu à l'Assemblée Générale des Nations Unies, ou plutôt non, plus exactement au Conseil de Sécurité, un débat sur le Sahara occidental,
oui.
Dit République arabe sahraoui démocratique. Que vous connaissez. Et en fait, ce sur quoi je veux insister, c'est que la majorité des comptes rendus sur cette décision, cette délibération du Conseil de sécurité, sont un mensonge. La majorité, parce qu'il a été affiché à peu près partout, dans tous les médias au moins occidentaux, y compris dans le Maghreb, etc., en particulier au Maroc, que le Conseil de sécurité avait approuvé le plan de partage fabriqué par la monarchie marocaine. C'est faux. C'est faux, il suffit. Alors c'est faux parce qu'il suffit d'aller lire la résolution du Conseil de sécurité et les commentaires qu'on peut lire dans la presse qui s'intéresse à la situation du Sahara occidental. C'est exactement faux. Donc toute cette information sur le fait que l'affaire était réglée et que la position marocaine s'était imposée et que les Sahraouis n'avaient plus qu'à aller se rhabiller est totalement erronée. Ce n'est pas du tout ça qui a été voté par le Conseil de sécurité. Que les choses soient bien claires. Alors, il y a eu des abstentions. La Chine s'est abstenue, la Russie s'est abstenue. Le projet de résolution venait des États-Unis. L'Algérie, qui est concernée d'une certaine façon, le CNA, n'a pas pris part au vote pour ne pas se mêler dans cette opération. La réalité, c'est que la seule décision prise par le Conseil de sécurité, c'est la prolongation de la mission des Nations Unies sur le Sahara occidental. Ça s'appelle la MINURSO. Il y a un haut fonctionnaire mandaté par les États-Unis qui suit ça depuis très très longtemps. Alors, prolonger la MINURSO, c'est en même temps constater un état de faillite. C'est-à-dire que la MINURSO, depuis des décennies qu'elle est là, devait faire organiser un référendum d'autodétermination. Ce qu'elle n'a pas fait. Alors, je n'impute pas le fonctionnaire de l'ONU qui était à la tête de la MINURSO. J'implique l'ONU en tant que telle, son secrétaire général et toutes les grandes puissances qui étaient là. Personne, en fait, n'a imposé le fait que la décision de faire un référendum d'autodétermination n'avait pas été respectée. Alors, ce n'est pas le seul cas où l'ONU se fait moquer et se ridiculise, mais là, c'est particulièrement flagrant, puisqu'on a essayé de croire que la prolongation de la MINURSO, à défaut d'autre chose, puisque c'est la seule chose que le Conseil de sécurité pouvait faire, puisqu'il n'a pas accepté le plan de partage fabriqué par le Maroc, la seule chose que le Conseil de sécurité pouvait faire, c'était dire ben, on renvoie la MINURSO pour un an pour voir ce qu'elle va pouvoir faire. Alors, ce qui a été décidé, par contre, c'est que pendant cette année, la MINURSO allait essayer de faire parler les deux parties. Et vous savez, dans le conflit du Sahara occidental, il y a même trois parties. Il y a en fait les Sahraouis eux-mêmes, l'Algérie qui soutient les Sahraouis et le Maroc qui revendique la totalité du territoire de l'ancien Rio de Oro espagnol pour lui.
Bon, c'est voilà. Vrai.
Alors, la MINURSO a juste cette mission-là de faire ce qu'elle aurait pu faire depuis très longtemps, puisque si elle avait eu un débat, elle aurait pu organiser un référendum avec l'accord de toutes les parties, elle ne l'a pas fait. Donc maintenant, elle a un an devant elle pour pouvoir effectivement écouter les parties, les réunir ou les écouter les uns après les autres et pour essayer de trouver une issue qui convienne à tout le monde. C'est-à-dire que la seule avancée, c'est de dire on va donner la parole aux trois deux gouvernements, plus le gouvernement autodéclaré des Sahraouis, pour essayer de trouver un accord. C'est pas plus que ça. C'est déjà beaucoup, puisqu'en fait, c'est faire accepter que l'Algérie d'un côté, le Maroc de l'autre côté, les représentants de la communauté sahraoui acceptent de se parler, de se voir ou d'échanger des informations pour trouver un mode de règlement. Qui pourrait être un référendum ? C'est possible. Toujours est-il que l'ONU a un mandat clair qui est dans sa charte et qui est renouvelé à la MINURSO, c'est le droit des peuples à l'autodétermination. Ça, c'est central parce que si l'ONU s'asseye, enfin, si l'ONU fait comme si cette disposition n'existait pas, l'ONU n'a plus qu'à fermer boutique. Bon, donc, on pense qu'ils n'en sont pas tout à fait là, encore que l'ONU ne soit pas dans un excellent état de santé. On pourrait faire des bulletins de santé sur des quantités d'autres sujets, mais ce n'est pas le moment. Mais je voulais insister là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut se trouver, et moi, j'étais absolument absolument stupéfié de me trouver la quasi-totalité des médias occidentaux expliquant que le Conseil de sécurité avait approuvé le plan de partage marocain. Or, c'est simplement pas vrai. Et il suffit de lire la résolution. Alors, sur le site de l'ONU, elle est en anglais, mais on peut la traduire. Et c'est limpide que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors, attention.
Je rappelle qu'il y avait la marche verte faite par
le Maroc.
Roi, oui, le roi Hassan II.
Hassan II, mets-toi devant.
Oui, je rappelle quand même qu'il y avait une marche verte effectuée par Hassan II. Et c'est une, pour moi, enfin personnellement, c'est une occupation.
Oui, ben voilà, c'est là-dessus qu'il faut partir. Donc le droit d'autodétermination.
Occupation d'un pays, ouais.
Voilà. Hein, parce qu'on peut imaginer qu'il y ait un accord sur la base, un régime avec un statut, une annexe. Bon, on peut imaginer tout. On peut imaginer, mais à condition qu'il y ait un débat entre les différentes parties prenantes. Alors, c'est ça la perspective qui s'ouvre devant nous et devant l'ONU pour la nouvelle année. Mais les Sahraouis l'ont bien fait remarquer. Nous sommes toujours là, nous sommes volontaires pour avoir un État et nous sommes prêts à discuter des conditions dans lesquelles, et les limites dans lesquelles, géographiques y compris, dans lesquelles cet État se constitue. Voilà, une vérité rétablie. Alors, ça fait de la peine d'en arriver là, c'est-à-dire qu'on peut avoir balayé la quasi-totalité des médias occidentaux et avoir compris exactement le contraire de ce qui s'est passé dans les couloirs de l'ONU. Donc, il faut remonter, il faut être très très prudent maintenant avec l'intelligence artificielle. Trouver les résolutions du Conseil de sécurité, ça se trouve en anglais d'abord, en français un peu après, sur le site de l'ONU, c'est en bleu sur blanc. Enfin, on ne peut pas les mélanger avec autre chose, à moins qu'il y ait un petit malin manipulateur de réseau qui un beau jour se mettent à fabriquer des résolutions du Conseil de sécurité et les mettre en ligne. Je ne l'explique pas, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Et j'ose espérer que le site de l'ONU est suffisamment sécurisé pour que ce genre d'aventure n'arrive pas. On verra. À propos d'aventure, et là aussi je mets des guillemets, il m'est arrivé la semaine dernière une aventure, c'est-à-dire que j'ai fait état d'une lettre ouverte du président, de l'ex-président Gbagbo de la Côte d'Ivoire à Nicolas Sarkozy, qui s'articulait, je vous le rappelle, en deux portions. Première portion, comme la condition pénitentiaire est dure, c'est toujours douloureux d'être en prison pour n'importe quel individu normalement constitué, mais en même temps, la différence c'est que moi j'étais innocent, je suis sorti innocent, et vous, vous avez été coupable, donc vous y êtes, voilà, c'est comme ça. Hein? Là, ça nous différencie beaucoup. Alors, il semblerait, alors j'ai une information venant de Côte d'Ivoire, il semblerait que cette lettre ouverte donc, du président Gbagbo au président Sarkozy soit une fabrication d'intelligence artificielle. Alors, c'est possible. Et en même temps, alors, chapeau à celui qui l'a fabriqué, parce que c'était parfaitement cohérent. Ça correspond tout à fait au ton qu'utilise Gbagbo classiquement, qui est un ton non acrimonieux, souriant. C'est un monsieur de bonne volonté, Gbagbo. Il l'a toujours été. Et il n'est pas là pour dire du mal des gens et pour cracher sur quelqu'un. Il a simplement dit, moi, j'étais innocent, mais je suis content d'avoir été innocenté. Vous avez été condamné. C'est tout, n'en parlons plus. Et c'est pas moi qui vous ai condamné, c'est la justice française. Elle a fait son travail. Alors il paraît, je ne sais pas, j'ai vu ça tout à l'heure, que je ne sais pas si Swan pourra nous confirmer, il paraît que Trump va venir visiter Sarko en prison. Mais n'importe,
non, mais y a rien
n'importe
de...
quoi.
Ouais, il est n'importe quoi. C'est vrai.
Bon, alors on verra, rions bien, rira bien qui rira le dernier, je ne sais pas, peut-être, et ça lui donne peut-être un avant-goût, parce que peut-être Sarko lui dira, c'est pas facile, j'espère que tu n'iras pas toi aussi un jour. Tout peut arriver, et ça m'amène à reparler, puisqu'on est le 4 novembre, ça m'amène à reparler d'un an de présidence Trump, puisque vous savez qu'il a été élu il y a juste un an.
Ouais.
Alors, c'est le moment de faire quand même une espèce de bilan. Il a mis le désordre un peu partout, mais les succès ne sont pas tous au rendez-vous, loin s'en faut. Alors, je commence par les annonces les plus tonitruantes. Rachat du Groenland. Bon, le Danemark a dit non, ça s'est arrêté là. Achat des ports, des terminaux chinois sur le canal de Panama. Alors, il y avait un délai de 6 mois qui avait été fixé. Le délai est passé, donc l'affaire est terminée. C'est-à-dire que les terminaux restent entre les mains de la société chinoise qui les occupait. On en reste là. Et d'ailleurs, on n'en parle plus parce qu'à la Maison-Blanche, c'est un peu douloureux de dire voilà, on a raté complètement l'opération. Bon. Ça, c'est deux échecs patents.
Le Canada,
Alors là, c'est grandiose. C'est-à-dire que vous arrivez à la présidence des États-Unis. Il existe depuis 25 ans ou 30, je n'ai pas le chiffre exact, un traité de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ouais. Un traité de libre-échange. C'est-à-dire la frontière est ouverte. On peut circuler d'un pays à l'autre, et en particulier les marchandises. Et du jour au lendemain, vous, président des États-Unis, dont le pays est signataire de l'accord de libre-échange, le libre-échange, c'est fini. C'est-à-dire, vous, une fois de plus, déchirez un traité que vos prédécesseurs ont signé. Mais ça, c'est du Trump. Après, tout ce qui est signable, tout ce qui peut lui être opposé, il ne veut pas en entendre parler. Bon. Donc, là, échec total. Et puis, petit à petit, à la fois les Canadiens et les Mexicains. Alors, je m'arrête sur les Mexicains parce que j'ai une grande admiration pour la présidence mexicaine. Et elle a fait une petite liste. Elle a fait un courrier ouvert s'adressant à 7 milliards d'humains. Alors, elle emploie le découpage qui est utilisé aussi par les Russes, disant, sur la planète, il y a 8 milliards d'habitants, il y a 1 milliard riches, ou très riches, c'est les pays développés, et 7 milliards, c'est tous les autres. Et puis, elle fait une espèce de petite liste, très très gentille, comme si elle faisait son marché. Vous voulez des voitures? Vous en trouverez partout. Dans tous les 7 milliards, on fabrique des voitures et d'excellentes voitures. Vous voulez des ordinateurs? Il y a tout ce qu'il faut partout. Vous voulez des engrais? Il y en a partout, etc. En fait, vous avez besoin de rien aux États-Unis. Donc, passez-vous-en et puis on n'en parle plus. Donc elle répond, le libre-échange, t'en voulais pas, mais on n'en a plus besoin, au revoir. Ouais. Bon, ça c'est Claudia Sheinbaum. Alors, moi, je ne sais pas si tu la situes, Swann. Hein. Elle est parfaite, d'un calme absolu. Elle fait, je le rappelle, une conférence de presse publique tous les matins pour faire le point de l'actualité. Oui. Avec un calme, une maîtrise de sa parole, jamais un mot plus haut que l'autre et tout. Et de temps en temps, elle envoie comme ça une très très jolie baffe au père Trump, parce que c'était exactement ça. Vous voulez plus de nous? Ben tant pis, mais on se passera parfaitement de vous. On est 7 milliards, restez entre vous les super riches. Au revoir. Bon, ça, c'est une façon de fermer la porte qui a de la classe. C'est très très beau. J'ai bien aimé. Alors, dernière trouvaille, à part la visite chez Sarkozy, qui aura peut-être lieu, la dernière trouvaille, c'est de mettre en cause le Nigeria. Qu'est-ce qui arrive encore? Dernière trouvaille du Donald, mettre en cause le Nigeria. Alors, pourquoi le Nigeria? Parce que le gouvernement nigérien s'en prendrait aux chrétiens. Alors, il y a des chrétiens au Nigeria, il y a des musulmans qui sont majoritaires, il y a une guérilla qui s'appelle Boko Haram, enfin des islamistes qui passent leur temps principalement à assassiner des musulmans, je le précise, et qui ne visent pas du tout les chrétiens. Ils ont beaucoup à s'occuper avec les musulmans du nord du pays. Et puis, il faut chercher pour trouver où est l'attaque contre la chrétienté. Alors, il faut le chercher, je l'ai trouvé. Parce qu'il y a un président au Nigeria qui est un musulman, qui s'appelle Bola Tinubu. Et puis, il a une femme, ce monsieur, qui a été sénatrice, qui a une longue carrière politique, elle doit avoir 65 ans, 70 ans maintenant, qui s'appelle Rémi Tinubu. Cette dame est chrétienne et elle est pasteur de son État. C'est-à-dire, elle peut faire la messe dans une église protestante. Voilà. Alors, les chrétiens sont peut-être mal servis, au Nigeria. Mais enfin, je pense que cette dame, en plus, vu son passé parlementaire, elle a été une des premières femmes sénatrices du Nigeria, ce qui n'était pas à l'appel. Là, c'était la 12e enfant d'une famille de 13, je le signale comme ça. C'est une des grandes dames qu'on peut honorer sur le continent africain comme ayant s'en sortie du sous-développement, du colonialisme, etc. Bon, chapeau. Donc, la souffrance des chrétiens, je pense, est limitée. Et je pense qu'elle est là pour y veiller en particulier. Donc là aussi, Trump perd son temps. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Alors il a fait une manifestation puisqu'il a interdit l'accès sur le territoire des États-Unis au prix Nobel de littérature nigérien qui s'appelle Wole Soyinka.
Ouais.
Façon de dire qu'il n'aime pas parce qu'il écrit bien, il a le Nobel de littérature, mais il est tout noir, ça ne va pas, ça le dérange, etc. Bon, pauvre Trump. Qu'est-ce qu'il inventera d'autre? Je pense qu'il inventera encore des choses. Mais là, c'était assez étonnant de voir tout d'un coup. Alors, je me suis dit, alors, il veut le pétrole du Venezuela. Bon, il n'a pas tort. Il veut peut-être le pétrole du Nigeria. Après tout, il y en a aussi.
Hein.
Alors, chez qui il va attaquer la prochaine fois? Où est-ce qu'il y a encore du pétrole? Et est-ce qu'il n'y aura pas une annonce extraordinaire dans les jours qui viennent? On ne sait pas encore.
L'Irak a été attaqué par
Oui, l'Irak,
pétrole.
C'est déjà fait. La Libye, ça a
la
été
Libye,
fait.
Pareil,
Bon, on va voir. Alors, ça pourrait être l'Indonésie. Il y a du choix. Mais pour l'instant, on ne voit pas venir de signes alarmants de ce point de vue-là. puisque j'en suis toujours à ce personnage étrange, on va s'arrêter un moment sur sa visite au Japon. Alors, l'objectif de la visite au Japon, qui a été précédé par une rencontre avec le président chinois en Corée, à Busan, donc dans le port de l'extrême sud de la Corée du Sud. Il se réunissait au Japon, une organisation qu'on appelle l'APEC, Association des pays de l'Est, pays asiatiques, Association économique des pays de l'Est du Pacifique. Alors, cette association réunit une vingtaine de pays qui vont de la Chine d'un côté, côté Pacifique Ouest, jusqu'au Pérou et au Chili de l'autre côté, y compris le Mexique, le Canada et les États-Unis. Il y en a quelques-uns qui n'y sont pas. Je pense à l'Équateur qui n'y est pas, la Colombie n'y est pas, mais enfin, la majorité des pays sont là. Il y a là-dedans la Chine, la Russie qui, on le sait, a une fenêtre aussi sur le Pacifique. Il y a beaucoup de monde. C'est donc une grosse organisation, mais qui a cette particularité que on y fait des projets en commun, on y travaille en commun, on est sur la base d'un traité de libre-échange, mais il n'y a pas de structure contraignante, rien à voir avec l'Union européenne. C'est-à-dire que deux pays peuvent très bien passer, de l'APEC peuvent très bien passer un accord entre eux, ils sont souverains, ils le font, les autres ne sont pas du tout obligés de l'appliquer, donc c'est très très souple, mais c'est un cadre de coopération régionale, et ça mérite qu'on y réfléchisse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est moulé, nous, j'allais dire, conditionné par l'Union européenne dans laquelle nous sommes inclus de force. Je rappelle qu'il y a eu un référendum en 2005 dont le résultat n'a pas été respecté par les autorités européennes et françaises. Donc on est moulé dans le cadre d'une structure qui est de plus en plus contraignante et qui veut décider à la place des États. Ce n'est pas du tout le cas de l'APEC. L'APEC dit on a des projets en commun, on les partage, on le fait. Ceux qui veulent y participer, y participent. Ceux qui ne veulent pas, y participent pas. Il n'y a aucune décision collective qui s'impose à l'ensemble des membres de l'APEC. Ça, c'est très important. C'est donc une espèce d'anti-Union européenne. Et c'est là que ça devient intéressant par rapport à la situation internationale des États-Unis. Quand le pacte atlantique s'est créé, et donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et que les États-Unis ont décidé de coloniser l'Europe occidentale, j'emploie le terme, c'est celui-là qu'il faut. Ils ont colonisé des petits pays qui sortaient de la guerre, qui étaient appauvris, et ils les ont obligés à prendre des décisions en commun, donc marché, je rappelle, marché commun, union, etc., pour aller jusqu'à l'Union européenne, et à avoir en face d'eux un seul interlocuteur, et donc avoir, si vous voulez, les deux côtés de l'Atlantique, où ils avaient, eux, et leur filiale, l'Union européenne étant une filiale des États-Unis créée par leur volonté. Et donc ils étaient seuls au monde, j'allais dire. L'Atlantique appartenait aux États-Unis et à ceux d'en face qui étaient leurs petits-enfants. Le Pacifique, ce n'est pas du tout ça. Quand vous mettez autour de la même table, effectivement, le Mexique, les États-Unis, le Canada, la Chine, la Russie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, etc., vous n'avez pas une domination des États-Unis du tout. Vous avez une assemblée, je veux dire, démocratique de pays qui sont là, qui décident de faire des choses ensemble, quand ils les décident de faire, et sans jamais mettre en cause leur souveraineté nationale. C'est totalement différent. Et je pense que pour les États-Unis, c'est un moment douloureux. C'est un moment douloureux. Alors, je ne vais pas m'apitoyer, mais c'est un moment douloureux parce qu'ils se sont habitués, hein, de 45 à 2025, ça a pris quand même un certain temps, à être les maîtres du jeu sur tout l'Atlantique. Ils avaient l'OTAN comme bras armé, l'Union européenne qui leur était fidèle, etc. Bon, là, quand on arrive dans l'espace pacifique, on a affaire à des gens bien, bien importants, bien autonomes, capables de se défendre. Hein, on a quand même deux puissances nucléaires, etc. C'est très, très différent. Ce qui explique d'ailleurs que, bien que la délégation des États-Unis ait participé au sommet de l'APEC, Trump, lui, s'est enfui. Il est vite rentré à la maison. Parce que ce personnage, puisqu'on en fait le bilan, je le disais, ce personnage, s'il est capable de faire des effets de tribune tout seul, n'est pas capable de mener une négociation sérieuse avec des dossiers, des chiffres et des accords. Il n'est pas capable, c'est tout. Et comme il ne veut pas qu'un de ses adjoints soit plus brillant que lui, les États-Unis désertent la table. Et donc après, on en voit dans les coulisses déjà essayer de recoller les morceaux, d'arranger une affaire, etc. Mais en fait, c'est comme ça que les États-Unis sont obligés de fonctionner. Avec un incapable, alors il est capable, vous allez voir de quoi, je vais en parler, mais il n'est pas capable de mener une négociation sérieuse, hein, parce qu'il n'a pas du tout été formé à ça. Il a été formé à travers ses différentes faillites hôtelières. Il a été formé à faire des coups avec les agents immobiliers, à faire pression sur les uns et sur les autres, mais il n'a pas du tout été habitué à négocier des accords internationaux. C'est pour ça qu'en fait, il en a peur. Il est comme un petit garçon qui se trouverait chez les grands et qui ne saurait pas jouer. Il ne saurait pas jouer parce qu'il ne saurait pas comment on joue chez les grands. C'est ça le caractère, je le dis, infantile de Donald Trump. Et ça s'est concrétisé d'une façon extraordinairement spectaculaire au cours de sa visite au Japon.
Une fierté mal placée.
Voilà. Alors, il s'est rendu dans le centre du commandement de l'armée américaine au Japon, qui se passe, ça se passe sur le bord de la mer, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Tokyo. Et il y a là une base américaine où il y a simplement 25 000 personnes, très principalement fort, des militaires et puis quelques civils, qui sont capables d'accueillir toute la flotte des États-Unis, qui sont capables de la réparer, où il y a des stocks d'armement, etc. Bon, là, il était chez lui, il était dans une espèce d'enclave états-unienne sur le sol japonais. Alors on peut, moi j'ai quelquefois, ça me rend malade, dire le Japon accepte ça. En fait, le Japon souffre du fait qu'il a... Il a été battu en 1945, qu'il a pris deux bombes atomiques sur la tête et qu'il ne s'en est pas vraiment remis psychologiquement. C'est-à-dire qu'il a une mentalité de vaincu et il accepte donc d'avoir ses 25 000 soldats sur lui, de payer leur nourriture, de payer pour tout. Hein, c'est-à-dire qu'il est occupé et il paye lui-même l'occupation. Et il est humilié en permanence par la présence des États-Unis qui font ce qu'ils veulent. C'est pas en train de changer, puisque vous avez peut-être vu que le Japon avait changé de premier ministre et que la première ministre nouvelle est considérée comme une digne copie de Madame Margaret Thatcher. Donc, on ne va pas vers une économie plus libérale. Encore que, vous verrez. Vous verrez parce que le Japon a intériorisé sa population, sa position de dominé, c'est-à-dire qu'il dit toujours oui aux États-Unis, et puis quelquefois, il fait le contraire. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est une espèce d'infirmité, c'est-à-dire on se soumet à une puissance qui est plus grande que vous, et dans son dos, on triche. Alors ça, il y a des petits-enfants, des petits garçons, des petites filles qui font ça aussi. On dit oui, papa, puis on va faire une bêtise. Bon, c'est un peu ça, la position des Japonais. Et donc, ça, je pense que ça va continuer comme ça, avec cette dame de fer japonaise, nouvelle venue sur la scène internationale. Et j'en reviens donc au point de départ de la visite de Trump à la base américaine, donc sur le sol, enfin qui est le centre de commandement des troupes américaines. Il n'y en a pas qu'à cet endroit-là, mais c'est l'endroit principal. Et alors, ça se passe, alors je vous décris la scène, vous avez déjà vu des défilés de mode. Alors dans un défilé de mode, il y a un podium, et puis les mannequins passent sur le podium, là, les gens sont assis tout autour, et puis les mannequins, vous connaissez la démarche et tout, bon voilà, se montrent en tant que tels. Et voilà pas notre Trump qui fait le mannequin. Hein, il arrive, alors il avait changé de casquette, il n'était pas MAGA, il était USA. Bon, c'est plus simple. Et il y avait à droite et à gauche les marins du principal porte-avions qui était là en escale, du principal porte-avions Washington, qui était là hébété. Parce que non seulement il arrive en se dandinant, mais à la fin il chante et il fait du twist. Ah, c'est fabuleux.
Ah, c'est comme en Malaisie, il a fait la même chose, oui.
Alors, il a une chanson fétiche, je ne sais pas si tu la connais, qui s'appelle YMCA. Voilà. Bon, ben, c'est sa chanson fétiche. Donc, il fait passer YMCA par la sono et il se met à se trémousser, il twist, voilà, sur le podium. Et alors, les marins n'en peuvent plus de joie, c'est incroyable. Hein,
bon. Il faut savoir marcher comme un mannequin, parce que c'est pas facile.
Bon, voilà. Alors on en rit, mais on se dit, ce monsieur est à la tête d'une grande puissance mondiale.
Mais il fait peur.
Il est d'une certaine façon un peu inquiétant. On va dire, ouais, parce que, est-ce qu'il est capable de faire autre chose que ça? Là, dans son rôle de clown, à la limite, prix Nobel de la clownerie, on vote, moi je vote, prix Nobel. On n'a jamais vu ça, mais pas plus, quoi. Arrêtons. Bon. Alors voilà Trump au Japon. Je voudrais dire
qu'il y a quelques bases américaines, la plus importante au monde, c'est le Japon,
oui,
le Qatar,
la Corée du Sud,
la Turquie aussi.
Et la Corée du Sud.
Et ouais, c'est des grandes bases américaines.
Et oui.
L'Asie, le Moyen-Orient.
Voilà. Alors l'Asie paye, alors la Corée du Sud paye le fait qu'elle a été libérée de la Corée du Nord par l'armée américaine, ça c'est tout à fait clair. Hein. Et puis le Japon paye le fait qu'il a jeté des... il a subi deux bombes atomiques.
Et, alors ça n'exonère pas... Bernard et l'OTAN, ah, qui le paye?
Ah, l'OTAN,
c'est les Européens.
C'est les Européens, bien sûr. Bien sûr. Alors, il n'y a pas de traité équivalent à l'OTAN en Asie de l'Est comme ça, puisqu'en fait, les deux principales puissances économiques qui sont la Corée du Sud et le Japon sont totalement entre les mains des États-Unis. Alors, ce qui reste quand même, c'est pour ça que je disais, le gouvernement japonais est en fait un petit tricheur, parce qu'en fait, il va quand même continuer à traiter la Chine comme son principal partenaire commercial. Ça ne s'arrêtera pas, ça ne s'arrêtera pas. Et puis, il est obligé d'être assez sage, puisque on parle de dette, vous savez qu'on parle souvent de la dette, y compris au Parlement français en ce moment. Il faut savoir que le Japon est le pays qui est le recordman du monde de la dette publique par habitant, équivalent à 260% du PIB. Personne ne fait mieux. Personne ne fait mieux. Alors ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas parce qu'ils se débrouillent. Oui, oui. Alors la dette est souscrite principalement par des banques japonaises. Donc ça reste un peu en circuit clos. Enfin, mais ceux qui voudraient nous donner des leçons en disant on est à 110% d'entraînement par rapport au PIB, en fait, on est en culotte courte par rapport au Japon qui fait beaucoup mieux de ce, et qui apparemment n'en souffre pas beaucoup. Je rappelle aussi, qu'il faut le dire à propos du Japon, que Madame Takahiri, puisque c'est nouveau nom, la Thatcher japonaise, est une femme du Parti libéral, comme tous les dirigeants du Japon depuis 1945, et que la constitution qui s'applique est celle qui a été écrite par un certain général MacArthur, qui a été le gouverneur du Japon de 1945 à 1951. Bon. Ça laisse des traces. Hein. Vous prenez deux bombes atomiques plus un MacArthur pendant 5 ans, vous n'êtes pas sauvé, vous avez besoin de vous refaire une santé.
C'est un peu comme en Irak aussi.
Oui, pareil.
Pareil, oui. Il faut le rappeler. Voilà. À chaque fois, je le rappelle.
Et oui. Voilà donc un petit coup d'œil sur Trump au Japon. Et bien entendu, il n'a pas participé au sommet de l'APEC, parce que là, dans ce genre de débat, il n'intervient pas. Il ne va pas faire changer une virgule dans un paragraphe pour dire à cette paragraphe de la résolution commune, il faut ajouter ci ou ça. Il n'en est simplement pas capable, c'est tout. Donc il ne faut pas qu'il se livre à ce genre d'activité. Donc il est sorti une résolution assez intéressante et sur laquelle il y a beaucoup de choses sur tout ce qu'on partage, l'intelligence artificielle, l'échange économique et tout. Et je voudrais simplement signaler la question démographique qui est en train de préoccuper un certain nombre de pays riverains de cet océan Pacifique. Au premier chef, la Corée du Sud. Au deuxième chef, le Japon. Au troisième chef, même les États-Unis. Et quelques autres. C'est-à-dire qu'on a...
Oui. L'Australie.
L'Australie aussi. Alors, ouais. on arrive à des niveaux de développement. Je pense que ce n'est pas le cas de tous les membres de l'APEC, loin s'en faut. Hein, mais on arrive à des niveaux de développement où, effectivement, la croissance démographique se ralentit, voire carrément, on passe dans le reflux démographique. Et que c'est une notion à laquelle il va falloir qu'on s'habitue. C'est-à-dire que il n'est pas écrit nulle part, et moi je me doute que ça puisse s'écrire, que les ressources naturelles de la planète puissent permettre de faire vivre normalement 15 milliards d'habitants. Donc il faudra bien, d'une part, que pour la vie des familles, pour la vie des hommes, et en particulier des femmes, toutes les femmes n'aient pas 13 enfants comme la maman de la vice-présidente, femme du mari du Nigeria. Ouais. Et puis, donc, c'est un phénomène qui atteint cette région-là du monde et qui va en atteindre d'autres. Elle a déjà atteint pas mal de pays européens. Et elle en atteindra d'autres parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que la croissance démographique peut être infinie. La planète n'étant pas infinie, la croissance démographique ne peut pas l'être non plus. Infinie. Même si chacun se contentait d'un morceau de pain et d'un verre d'eau minérale. Et il y en a qui mettraient beaucoup de temps à s'habituer à ce régime-là. Bon, il y en a qui y sont déjà, hélas, pour eux, et bon, les autres... Bon, donc... Ça, alors, c'est considéré. Alors, c'est assez étonnant parce que il y a des gens qui se mettent à dire la Chine a commencé son déclin. Alors, bon, façon de parler, si vous voulez, la Chine va plus augmenter ou à peine sa population, et on sait que l'Inde l'a dépassée. Ouais. Mais je souhaite bien du plaisir au gouvernement indien pour arriver à nourrir toute sa population avec le petit territoire dont il dispose. Ça, c'est un autre problème qui regarde principalement les Indiens. Je voulais simplement signaler ça parce que on a autour
la libération de la femme actuellement a évolué énormément.
Mais bien sûr.
On va se limiter certainement à un, deux enfants, voilà.
Et je rappelle que la France qui s'honorait, qui faisait cocorico en disant au sein de l'Union européenne, je suis jusqu'à en gros l'arrivée de Macron, je ne pense pas qu'il y soit pour quelque chose, mais la France qui était au-dessus du taux de fécondité à 2 est descendue à un 6 maintenant, donc on est rentré dans le rang européen classiquement. Alors ça fait aussi partie d'une expression de perte de confiance dans le pays. On vous disait, vous avez confiance, faites des enfants. Oui, mais si la perspective c'est de dire ces enfants, ils seront quoi, chômeurs? Bon, on hésite. Les enfants eux-mêmes se disent, mais moi je vais prendre des tsunamis sur la tête, etc. Bon, les enfants réfléchissent. C'est normal qu'ils réfléchissent. Et on ne fabrique pas des enfants à la chaîne. Il y a des méthodes de contraception. Et heureusement, et la libération des femmes est passée par là. Ouais. Et donc, effectivement, on dose, on adapte à la situation. Et quand la situation est moralement lourde et pesante, effectivement, ça se répercute très, très vite sur les taux de natalité, sur le taux de fécondité.
C'est vrai.
Voilà. Quand vous ajoutez, je finis sur le cas de la France, mais j'enfonce un clou dans le cercueil de Macron, quand vous ajoutez que depuis son arrivée au pouvoir, la mortalité infantile, c'est-à-dire la mortalité entre 0 et 6 mois, nous a fait classer au 20e rang de l'Union européenne alors que nous étions dans les 2 ou 3 premiers, ça veut dire que la désertification hospitalière, l'absence de médecins, la grande rareté des gynécologues, etc., etc., fait que effectivement aujourd'hui...
Et ça va toujours dans ce sens, Bernard.
Mais bien sûr.
On
va en reparler.
Sur l'hospitalisation, la sécurité sociale.
Voilà ce qu'il était intéressant de dire à propos de... Alors, dernière trouvaille de Trump. Puisqu'on est dans le bilan. Trump, vous le savez, il lit le journal, il le lit apparemment très très vite, où on lui fait un commentaire, on lui donne les grosses nouvelles, on lui souligne avec un stabilo, en disant ah, « il faut que tu lises ça », etc. Mais je crois que c'est comme ça que ça fonctionne à la maison. C'est pas possible. Il glane des infos ici et là, puis tout d'un coup ça ressort et ça passe dans la planète entière. Bon, donc ce qu'il avait compris la semaine dernière, c'était qu'effectivement, la Russie avait mis au point deux armes propulsion nucléaire, une arme aérienne, une arme sous-marine. Hein.
C'est ça.
Bon, Poséidon d'un côté et Bourevestnik de l'autre. Bon. Donc je dis bien propulsion nucléaire avec en tête de ces deux armes un explosif qui peut être nucléaire ou ne pas l'être.
Ouais.
Ça c'est secondaire, hein. C'est la propulsion. Cette propulsion nucléaire permet effectivement à ces deux véhicules d'aller à peu près partout, de ne pas être à court de carburant pendant très longtemps, et donc de faire plusieurs fois le tour de la Terre s'ils en ont envie, tranquillement. Bon. À une vitesse tout à fait raisonnable.
Et fixer l'endroit qu'ils veulent atteindre.
Ouais, et fixer l'endroit. Bon. Alors Trump, dans les notes qu'on a dû lui mettre, attention, ils ont des armes nucléaires qui se baladent partout. Alors il a dit, ah mais moi j'en ai aussi. Ah mais comme c'est bien, il a compris le message. Bon, moi j'en ai aussi, mais par contre, je vais montrer que je suis aussi moderne qu'eux. Alors, il n'y a aucune recherche connue aux États-Unis pour avoir des armes du type des deux Russes qui viennent être programmées et propulsées à la vue du monde par Poutine. Donc, il a dit, on va reprendre les essais nucléaires.
Nucléaires, oui.
Alors, je rappelle, les essais nucléaires sont interdits par un traité qui a été signé par toutes les grandes puissances, que Jacques Chirac a violé allègrement dans le Pacifique parce qu'il voulait absolument réessayer sa nouvelle bombe quand il est arrivé à la présidence de la République. Mais à part lui, tout le monde, enfin toutes les puissances nucléaires l'ont respecté. Bon. Et donc ce traité, comme d'habitude, bon, les États-Unis ne veulent pas en entendre parler, et Trump dit « je vais reprendre les essais nucléaires ». Alors ça, il le dit, et le lendemain, le secrétaire d'État à l'énergie, puisque c'est le secrétaire d'État à l'énergie qui gère les questions nucléaires, civiles et militaires aux États-Unis, dit non, non, surtout pas, on ne va pas reprendre les essais, on va simplement tester les éléments. Une arme atomique, c'est compliqué, il y a un propulseur, il y a une mise à feu, etc. On va vérifier sur chaque segment si tout marche bien, si nos stocks sont en bon état, etc. Donc il fait retomber immédiatement le soufflet médiatique que Trump avait fait gonfler, on n'en parle plus. Donc il n'en parlera plus là, on lui dira bon, tu n'aurais pas dû dire ça, mais il passera à autre chose, on ne sait pas ce qu'il va pouvoir inventer pour la suite des événements. Bon, donc ça c'est réglé, mais c'est aussi, c'est un signe de plus du caractère très très inquiétant du personnage. Heureusement, il va rarement au bout de ses projets. Alors, le seul cas où il est allé au bout de ses projets, encore que ce n'était pas le projet à lui, c'était le projet d'Israël, c'est quand il est allé bombarder l'Iran. Parce que là, il est venu au secours d'Israël qui avait subi un choc très, très important avec les missiles iraniens qui avaient touché le cerveau de la recherche scientifique d'Israël, donc l'Institut Weizmann qui est à côté, qui est dans Tel Aviv, où tous les secrets nucléaires israéliens sont là. Bon, donc, effectivement, Israël est allé frapper à la porte en disant « Papa, Bobo !» Et donc, Trump, tout de suite, y est allé. C'était 8 jours après, c'était rien du tout. « Papa, Bobo !» Donc, il a envoyé ses bombardiers, bombardier furtif, et puis il a bombardé l'Iran, et il est convaincu lui-même que l'Iran n'a plus de capacité nucléaire, ce qui reste à démontrer, je pense.
Ils sont en train de...
Oui, ils se réorganisent. Ouais. De toute façon, alors, la capacité nucléaire, je confirme quand même que, ça je l'ai dit la semaine dernière, mais ça mérite d'être redit à nouveau, c'est-à-dire que, vu l'état de ce qui a été constaté par l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le territoire de l'Iran, où ils avaient le droit d'inspecter toutes les installations pendant plus de 15 ans, il n'y a pas d'armes atomiques sur le sol de la République iranienne. Point. Non, bon. Et, alors, il n'y en a pas, et depuis...
Ils n'en veulent pas.
Bah, et depuis comme ils ont juré, alors Khomeini a même fait une fatwa pour dire qu'il est interdit d'avoir une arme atomique, donc ils n'en ont pas et on n'en a pas trouvé. Mais maintenant, ils sont libres de leur mouvement, ils font ce qu'ils veulent, ils ont de l'électricité d'origine nucléaire qui a été construite d'ailleurs par les Russes, ils s'en servent, là l'AIEA peut continuer à y venir, mais sur le reste, la partie militaire, ils n'ont rien à y voir. Il faut simplement savoir que la capacité industrielle, technologique et scientifique de l'Iran s'est concentrée sur les missiles. Et que là, ils sont très, très bons. Très bons. Et que donc, ils ont fabriqué tout seuls. Alors, je fais un clin d'œil aux féministes parce que je sais que la condition des femmes iraniennes fait question chez les occidentales. En fait, il faut savoir que les scientifiques israéliennes sont extrêmement brillantes en robotique, en informatique appliquée. C'est une contradiction, moi, que... Comment l'assumer ? C'est-à-dire, vous pouvez être obligé de porter un voile et être à la pointe de la robotique mondiale. C'est une espèce de contradiction. Alors, le seul souhait que j'ai, c'est qu'un beau jour, on dise, vous enlevez le voile, ça suffit, la robotique suffit à votre bonheur. On n'en est pas tout à fait là, mais en fait, la réalité de la vie quotidienne fait que le voile se porte de plus en plus loin et qu'à l'occasion, on le laisse... Non, mais c'est pas le hijab.
Hein. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà.
Alors, je parle aux féministes occidentales en disant, ne désespérez pas, elles tiennent le bon bout, elles sont, au niveau de leur vie conjugale, sexuelle et tout, extrêmement avancées, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a autant de divorces en Iran que dans les contrées occidentales, tout ça. Hein. Et par contre, le niveau scientifique moyen des iraniennes est remarquable. Bon. Alors, ça va dans le sens du régime, c'est-à-dire faire des instruments de défense de pointe, etc. Mais pas que ça, la robotique, ça ne sert pas qu'à ça. Et moi, j'ai eu des témoignages d'étudiants français, dans des IUT français, qui avaient des iraniennes professeurs de robotique, et ils étaient stupéfaits de la qualité du niveau de leur enseignement. Alors, mettons ça comme élément positif dans la situation de la femme iranienne contemporaine. Il faut bien trouver des aspects positifs. Voilà. Alors, où j'en suis ? Où j'en suis ? Je voulais dire un mot d'une femme aussi, d'une femme exceptionnelle d'une certaine façon, qui est la présidente de la Tanzanie. Alors la Tanzanie, vous ne vous situez peut-être pas très bien, c'est au sud du Kenya. C'est un pays qui a eu l'avantage d'avoir un dirigeant post-colonisation de très très grande qualité qui s'appelait Julius Nyerere, qui a été un des premiers à concevoir et à écrire une capacité de sortir du sous-développement en comptant, et j'utilise le slogan chinois, sur ses propres forces. C'est-à-dire dire on entreprend un programme de développement où on est les maîtres du jeu. Et la Chine, du coup, a beaucoup apprécié cette position et a aidé la Tanzanie autant qu'elle a pu. Mais alors, ça s'est passé en deux temps. Alors, cette dame qui s'appelle Madame Samu Sulu, qui est elle-même une musulmane d'ailleurs, cette personne vient d'être réélue à la présidence de la République. Puisqu'elle était arrivée à la présidence de la République, en succédant au président, elle était vice-présidente, et le vice-président était décédé, elle avait pris la place, donc elle est à la tête du pays depuis 4 ans maintenant, et là elle va l'être à nouveau pour 5 ans. Alors on a dit qu'il y avait eu des problèmes avec l'opposition, et je pense qu'il y en a eu. Je pense qu'il y en a eu, au point que le pays a été coupé de l'accès au réseau Internet. On dit dans la presse occidentale qu'il y a eu des morts. Il y a eu, je pense, une tentative de déstabilisation de la Tanzanie. Et je vais expliquer pourquoi. À mon sens, l'interprétation qu'il faut en donner. Du temps où la Chine était un pays tout petit et qui comptait sur ses propres forces, les Chinois sont venus, à la demande du président Nyerere, installer une voie ferrée sur le sol donc, de la Tanzanie qui allait jusqu'à la Zambie. Alors ça ne vous dit rien dans la géographie africaine. Ouais. La Zambie, c'est un pays enclavé qui est en gros entre le Congo et la Tanzanie. Ouais. Il se trouve que la Zambie est le 7e ou 8e producteur de cuivre du monde. Et c'est sa principale exportation, c'est sa principale richesse, c'est un tout petit pays. Et donc ce que la Chine avait fait, c'était dans les années 75, c'est qu'elle avait ouvert une voie ferrée de 1500 km ou 2000 km pour aller jusqu'en Zambie et pour que le cuivre zambien puisse repartir par le port de Dar es Salaam vers des destinations asiatiques et en particulier la Chine. Ce train s'est arrêté faute... Alors, ce qui s'est passé, alors, c'est très intéressant pour l'histoire de la Chine, parce qu'en 1975, quand c'est les ouvriers chinois qui viennent aider au développement, construire avec, à la pioche et à la pelle la voie ferrée, on est dans la Chine du grand démarrage de la période Mao immédiatement successive. Maintenant, on a affaire à une autre Chine. Et il se trouve que la semaine dernière, ou dans les derniers jours de septembre, un accord a été signé entre la Chine, la Tanzanie et la Zambie pour remettre à neuf cette voie ferrée. Et là, il y a $1,5 milliard qui sont en cours d'investissement. Et donc, connaissant les façons de travailler des Chinois, on peut parier que d'ici un an, il y aura une voie ferrée qui permettra à la Zambie d'exporter son cuivre. Et comment ça se passe? Voilà. Alors, donc, la Zambie aura dans un an une voie ferrée moderne, toute neuve, créée avec les techniques modernes qui ira donc jusqu'au port de Dar es Salaam, permettant les exportations du cuivre zambien sur tout l'espace asiatique. Et il y a en face un projet. Et à mon avis, c'est de là qu'est venue les difficultés électorales qu'a eues Madame Samusulu. C'est-à-dire que juste avant de quitter le pouvoir, un certain Joe Biden était allé en Angola. Mais dans les derniers jours de son mandat, dans l'état où il était. Et il était allé en Angola pour promouvoir lui aussi la construction d'une voie ferrée qui partirait de Lobito, c'est un port qui est au nord de l'Angola, et qui irait jusqu'en Zambie. C'est-à-dire qu'on avait une concurrence. Il y avait deux pays, il y avait les États-Unis et la Russie, la Chine, qui était en concurrence pour extraire, enfin pour exporter ou permettre l'exportation du cuivre zambien. Vu ce qu'on ce qu'on ne dit plus d'ailleurs du projet de Biden, qui n'a pas l'air d'être repris, les Chinois vont gagner la partie et donc leur voie ferrée, dont les travaux vont commencer incessamment sous peu, sera opérationnelle l'année prochaine et ça en sera fait du projet de Biden de train de Lobito en Zambie. Alors je vous donne cet arrière-plan parce que derrière l'Afrique, il y a toujours la probabilité ou la possibilité d'utiliser les ressources naturelles. Alors effectivement, c'est vrai dans le cas de la Zambie, leur principal article d'exportation, c'est ça. Ils sont enclavés, ils n'ont pas de port. Et effectivement, pour eux, avoir un port, une bonne voie ferrée qui le dessert, c'est absolument vital. On ne doit pas, bien sûr, arrêter le développement de l'Afrique à ce genre de situation, mais il y a des conditions de démarrage, disons, d'un décollage économique quand on fait ça. Et donc ça, c'est encore un pion qui est avancé par les Chinois avec beaucoup, beaucoup d'habileté. Je regarde tranquillement là. Et puis, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au sommet de l'APEC? Donc, je vous l'ai dit grosso modo. Et il y a eu, en marge du sommet de l'APEC, une rencontre entre le président chinois et le nouveau premier ministre sud-coréen. Alors ça mérite d'être analysé, ouais, puisque pourquoi il y a un nouveau premier ministre coréen? Parce que vous savez que le précédent a tenté un coup d'État qui a raté.
Oui.
Il est aujourd'hui en prison. Il tente un coup d'État, il dissout le Parlement, et le Parlement dit non, je ne veux pas être dissous. Et donc, l'ancien premier ministre sud-coréen est en prison depuis. Il a été remplacé par M. Lee Jae-myung, qui a une rencontre très, très instructive avec le président chinois. Et de quoi ont-ils parlé? Ils ont parlé de relations économiques et puis ils ont même parlé d'essayer de normaliser les relations avec la Corée du Nord. Voilà qui est très très important. Parce que je rappelle, quitte à ce que les gens ne le croient pas, que chez les Coréens, qu'ils soient du Nord ou du Sud, il y a une vraie nostalgie de la Corée unifiée. Si elle ne s'est pas unifiée, c'est parce que les États-Unis n'ont pas voulu qu'elle s'unifie, ils n'ont pas voulu que les communistes prennent le pouvoir à Séoul, etc. Tout ça est connu, mais au fond, il suffirait qu'il y ait un geste différent de part et d'autre pour que les choses se transforment profondément. Car j'ajoute qu'une Corée unifiée avec le potentiel technique de la Corée du Nord, le potentiel politique aussi, avec la Corée du Sud, alors la Corée du Sud, c'est pas rien, c'est Samsung, c'est Kia, etc., c'est le top niveau. C'est dans la liste de Mme Sheinbaum à la Corée du Sud. Vous voulez autre chose que des ordinateurs américains? Allez en Corée du Sud, il y a tout ce qu'il faut. Vous voulez pas de téléphone Apple? Allez chez Samsung, c'est bon, etc. C'est ce qu'elle dit, Claudia Sheinbaum. Et donc là, c'est intéressant, parce que ça veut dire que le premier ministre sud-coréen se dit que c'est peut-être le moment de revoir les relations entre les deux Corées. Alors il le fait avec beaucoup de prudence. Il dit qu'il faudrait que la Corée du Nord soit moins méfiante. Alors je pense que si j'étais la Corée du Nord, je dirais, ben, écoutez, arrêtez de recevoir des porte-avions et des sous-marins nucléaires américains dans vos ports et tout va s'arranger.
Hein. Ah, c'est sûr.
Alors, Ça se dit pas, mais évidemment, Lee Jae-myung, il le sait, ça. Il sait bien qu'effectivement, essayer de réouvrir la porte et de réouvrir la porte à l'unité de la population et du peuple coréen doit passer par le fait que chacun des deux pays est libre de ses mouvements. La Corée du Sud n'est aujourd'hui pas libre de ses mouvements, puisque j'ai développé sur les bases américaines au Japon, c'est exactement la même chose en Corée du Sud. Il y a aussi une 30 000 ou 40 000 soldats états-uniens sur le sol de la Corée du Sud, que la Corée du Sud nourrit, loge, etc. Bon. Donc tout ça est connu. Donc là aussi, évolution intéressante, c'est-à-dire à partir du moment où, c'est vrai, la Corée du Nord est devenue plus respectable dans la mesure où elle a reçu le soutien politique de la Russie et de la Chine, on commence à avoir des tentatives de réorganiser l'histoire. Et réorganiser l'histoire, c'est très très important. Ça veut dire sortir d'une situation qui, en 1953, a été gelée par un simple cessez-le-feu. Hein ? Ce qui se passe à Panmunjom, la ville où sont signés les accords, c'est un traité d'armistice, un cessez-le-feu. On est toujours, depuis 1953, dans un cessez-le-feu entre deux pays qui sont peuplés par les mêmes Coréens, qui parlent la même langue, qui ont une longue histoire multiséculaire. Donc on a une vraie plaie dans la Corée. Il faut savoir que la Corée a été occupée entre 1905 et 1945 par le Japon, et que le Japon y a mené une politique épouvantable, coloniale à un degré pas possible, puisqu'il avait interdit l'usage de la langue coréenne, interdit de porter des noms coréens, et qu'en plus, bon, les femmes, bien entendu, étaient soumises à la prostitution de masse, et les enfants ne pouvaient pas parler coréen. Il fallait devenir japonais dans sa tête et dans son corps. Bon. Et ça, les Coréens n'ont pas oublié, enfin, ou les parents ou les grands-parents des Coréens actuels, ils n'ont pas oublié, c'est-à-dire que les Japonais ont été affreux, comme ils ont été d'ailleurs en Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire massacres, expérimentations médicales, essais de vaccins, etc. Tout y est passé. Alors, c'est vrai que vu maintenant, avec la Japan Expo, les mangas, etc., on a lissé l'image du Japon. Mais le Japon a été un pays fasciste. Voilà, il faut le dire. Et puis voilà.
Nazi, alors, ouais, comblé le nazi.
Alors on dit autoritarisme impérial, je veux bien. Mais enfin, tout ce qu'ils ont fait, l'expérimentation médicale en particulier, essayer des vaccins ou essayer de faire des amputations sans anesthésie, etc. Tout ça, ils l'ont fait dans des camps de prisonniers chinois, coréens, etc. Bon, donc il ne faut pas les peindre pour ce qu'ils ne sont pas. Alors, ils payent très très cher ce qu'ils ont fait à ce moment-là. C'est vrai qu'ils continuent à payer, mais ils avaient quand même les mains pas très très propres. Alors, beaucoup disent, oui, mais finalement, regardez, les Allemands et les nazis, c'était pas mieux, mais on a plus vite passé l'éponge. C'est vrai. On revient sur le nazisme en Allemagne, mais on ne dit pas à tous les Allemands actuels, vous savez, regardez ce que vos grands-parents ont fait. Alors, pourquoi on ne dit pas? Alors, je fais... c'est peu connu, mais c'est assez intéressant. Au moment, on est en juillet 1945. À Los Alamos, là, dans le désert du Nevada, on est en train de préparer la bombe atomique, ou les deux qu'on va lancer sur le Japon. La question se pose, alors elle ne se pose pas que chez les scientifiques qui sont, des ingénieurs qui sont à Los Alamos, mais elle se pose au niveau le plus élevé, c'est-à-dire politique, au niveau de Roosevelt et ensuite de Truman. sur qui on va la lancer. Parce qu'à l'époque, effectivement, dans la guerre mondiale, il y a plusieurs ennemis. Il y a le Japon côté Pacifique, il y a l'Allemagne, l'Italie s'est déjà terminée, il y a l'Allemagne du côté occidental. Bon. Et le choix qui a été fait, tenez-vous bien, parce que ça a été écrit, c'est-à-dire, on va la lancer sur les Japonais parce que ce sont des jaunes. Ce ne sont pas des blancs. Hein. Les Allemands, c'est des blancs. Bon, on est copains avec eux, on s'arrangera, etc. Eux, c'est des jaunes, donc c'est une espèce inférieure. Ils auront droit à leur bombe, ça leur prendra. Mais ils n'étaient pas plus nazis que ceux, ni pas moins que ceux de l'autre côté. C'est ça l'affreuse réalité. C'est-à-dire que ça fait partie... Là aussi, on est en plein trumpisme. C'est-à-dire, quand il ne veut pas voler son Ika sur son territoire, c'est la même chose. Hein. C'est la couleur. Alors, c'est là qu'il est pris à son propre piège, parce qu'il est obligé de parler poliment à Poutine. Parce que Poutine est blanc. Hein. Il est obligé, alors, un peu plus de parler poliment à Xi Jinping, parce que c'est un Chinois, il est très puissant économiquement, mais il est quand même un peu jaune. Hein. Mais de là à le faire parler au président du Nigeria auquel il veut du mal, ou de là à le faire parler sérieusement même avec le président d'Afrique du Sud, c'est pas du tout le cas, puisque l'opinion de Trump sur l'Afrique du Sud se fait à travers M. Elon Musk et son papa, qui sont deux partisans affichés de l'apartheid. Voilà, il faut savoir, c'est ça. Et donc, la vision de Trump sur l'Afrique du Sud, c'est l'apartheid, et c'est les Blancs qui ont raison. Il faut savoir que, je ne l'ai pas mentionné, mais dans le bilan de l'année, c'est pas mal non plus, à un moment donné, il a dit qu'il allait voler au secours des Blancs sud-africains qui étaient maltraités par les Noirs, aujourd'hui. C'est-à-dire, il a retourné l'apartheid, il a osé le dire. Mais ça, c'est pas, il n'a pas trouvé tout seul, c'est Elon Musk qui est allé lui dire, dit, les Blancs souffrent là-bas, on a beau tenir tout le business, ils sont quand même pas très très disciplinés. Il est fondamentalement raciste. Ça lui sort par le nez. Bon, alors, voilà, ce petit tour fait dans l'Asie lointaine, mais c'est intéressant de le faire parce que ça fait aussi partie d'un passé qu'on a tendance à moins connaître parce que ça nous paraît loin. Et en fait, ce passé maintenant, avec la puissance de toutes les économies qui sont autour du Pacifique, avec la puissance de cette Asie de l'Est, parce que la puissance économique du Japon reste importante, la puissance chinoise, on le sait, la puissance de la Corée du Sud, on le sait aussi. Là, il y a tout. Et puis, on sait que le Vietnam n'est pas loin, on sait que d'autres sont en plein progrès. Donc, on a vraiment un nouvel équilibre du monde qui se fait, dans lequel les États-Unis ne sont qu'un parmi d'autres. Et ça, c'est assez difficile à accepter de leur point de vue. Ouais. Ensuite, ce que je voulais rappeler, alors je fais un petit tour dans l'histoire un peu plus lointain. En 1917, il s'est signé, parce que ça a été signé, je crois, un 2 novembre 1917, il s'est signé ce qu'on appelle la déclaration Balfour. La déclaration Balfour, ça a été signé entre un monsieur qui s'appelait Balfour, qui était donc le ministre des Affaires étrangères, on dit le Foreign Office britannique, et un Lord Rothschild, qui était le président de la Banque Rothschild, filiale britannique, dans lequel donc le ministre des Affaires étrangères de Sa Gracieuse Majesté signait avec ce banquier, qui ne représentait que lui et éventuellement l'ensemble de la communauté israélienne locale, il a signé un accord disant qu'il y aurait sur le sol de la Palestine un foyer national juif.
Bon. Ouais, un foyer.
Un foyer.
Voilà.
À partir de ça, les crédits de la banque Rothschild et ceux de quelques autres ont permis à beaucoup de gens de faire le voyage depuis l'Europe en particulier jusqu'à la Palestine, de s'installer, d'acheter des terres à vil prix ou avec le fusil braqué sur la tête aux paysans palestiniens.
La Gada.
Voilà. et de s'installer de telle façon que en 1947, la population israélienne, donc qui n'était pas encore israélienne puisque le pays n'existait pas, la population d'origine juive atteignait à peu près 45% de la population sur le territoire de la Palestine. C'est ça qu'a permis Balfour. Alors, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, on a un document qui, en droit international, ne vaut absolument rien. C'est une lettre privée d'un ministre à un banquier qui est de ses amis. C'est tout.
Bon. Oh ouais, c'est,
C'est fabuleux. Oh, c'est fabuleux. C'est... Et il a fallu l'extrême puissance et toute l'habileté du président des États-Unis, en l'occurrence le président Wilson, pour réussir à transformer cette lettre privée d'un ministre à un banquier en document qui sert à la Société des Nations, c'est-à-dire qui devient un acte de commerce et de traité international. Alors là, chapeau Wilson. Hein. Alors il n'y avait plus personne en face de lui. Enfin, il était en pleine puissance. Il avait gagné, il avait aidé à gagner la Première Guerre mondiale. Il a imposé ça. Et donc, on doit au président Wilson le fait qu'effectivement, les sionistes ont eu les coups des franches et le droit de leur côté, alors qu'ils n'y étaient pas. Je veux dire, la déclaration Balfour, en droit international, c'est un bon à jeter au panier. Ça n'a aucun poids, aucune signification. C'est toujours utile de le rappeler. Et ça nous fait une transition pour dire quelques mots quand même sur la situation en Palestine, en l'occurrence, pour dire deux choses. Deux choses. D'une part, j'ai quelque part sous les yeux, dans mes papiers, un texte du Front populaire de libération de la Palestine qui est très explicite en disant le plan de Trump, il ne cite même pas le plan de Trump, c'est très bien, mais ça ne nous concerne pas. L'avenir des Palestiniens sera décidé par les Palestiniens, ce qui est une évidence élémentaire. Hein. Et donc, c'est ce qu'ils rappellent dans ce petit texte qu'ils ont publié. Je l'ai quelque part souligné. Enfin, peu importe, le principe est simple. Hein. L'avenir des Palestiniens, c'est les Palestiniens qui en décideront. Et ça ne sera pas ni l'Égypte, ni le Qatar, ni la Turquie. Que les choses soient bien claires.
Il y a eu un sommet là à Istanbul où il y avait 7 pays, sauf l'Égypte, elle était absente, alors qu'elle était...
Voilà, alors je pense que l'Égypte est un peu mal à l'aise. L'Égypte est un peu mal à l'aise de jouer un peu sur tous les tableaux. Effectivement, ça devient un petit peu difficile, je pense. Mais la position des Palestiniens, elle est claire. Hein, c'est-à-dire, c'est à eux de décider de leur avenir et pas à quiconque d'autre, et en particulier pas à ceux désignés par Donald Trump, qui ne sont pas là. Enfin, c'est mettre sous tutelle, c'est dire vous n'êtes pas assez grand, vous n'avez pas le droit d'occuper un pays. Alors, quand on voit ce qu'ont réussi à faire 2 millions de Gazaouis à l'armée soi-disant la plus puissante du monde, on se dit que ces gens-là méritent bien de discuter de la constitution de leur État. Ils ont toutes les capacités et les qualités pour le faire, et c'est certainement ce qu'ils vont faire. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Gaza? C'est très clair, je vais simplifier, mais je pense que tu partiras de l'analyse. Ils sont en train de retransformer le Gaza en Jordanie, en Cisjordanie. C'est-à-dire, en fait, Gaza, c'était 2 millions de personnes entre quatre murs, deux à droite, deux en bas à gauche. Et puis, ils sont en train de transformer ça en Cisjordanie. Ça veut dire on va isoler les Palestiniens par petits groupes, mettre un mur autour, faire une route qui est sous contrôle israélien vers un autre coin où il y a encore un mur et il y a encore un village palestinien. Donc, je vous dis, la bande de Gaza est en train d'être transformée en nouvelle Cisjordanie. Alors, la Cisjordanie, c'est une série de murs des villages israéliens, palestiniens, qui sont isolés les uns des autres.
700 kilomètres de murs.
De murs, voilà, c'est tout. Et puis, en plus, alors, on vous enferme dans des murs, vous êtes vivant, mais on vous arrache vos oliviers, hein, et donc vous ne pouvez pas manger, etc. Je signale qu'un olivier, puisque les arrachages sont en cours grâce à l'armée sioniste, un olivier, ça met quelques années à produire, ça a une période de production faste entre 7 ans et 15 ans après la production. Donc si vous arrachez demain les oliviers d'un paysan palestinien, il sera mort de faim avant que les olives puissent se récolter sur la nouvelle plantation. Bon, c'est tout à fait clair, ça fait partie du processus génocidaire, ça fait pas long.
À mon avis, non seulement il tue les Palestiniens et les Gazaouis, et il tue aussi les oliviers, c'est la même chose.
Bien sûr,
moi,
bien sûr. Oui, dit, je vous enlève le pain de la bouche, donc vous allez mourir, c'est comme ça. Hein. Et c'est effectivement pas une récolte de blé, c'est pas pour l'année prochaine.
Hein. C'est ça.
Donc vous avez plus rien, on vous prend votre eau ou on pollue vos puits, enfin tout ça fait partie du même système. Donc la position est parfaitement claire, donc les Palestiniens devront décider de leur avenir, ils s'emprêtent à le faire, et ils auront bien mérité de le faire, parce que qui aurait pu imaginer qu'ils opposeraient une telle résistance à la première armée du monde.
Ouais,
et c'est pas les 5000 militants ou 10000 militants du Hamas, c'est les 2 millions qui sont porteurs de ça. C'est en ça qu'il y a un avenir. Le Hamas n'est qu'un outil. Alors, il n'y avait que le Hamas.
Malgré la destruction, ils sont retournés à leur domicile.
Alors, ils sont retournés.
Vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est un peuple vraiment.
Je suis chez moi, je rentre chez moi.
Beaucoup de respect.
Voilà, tout à fait. Donc là, moi je pense que là aussi, alors on souffre des images d'horreur comme on peut en souffrir évidemment, et en même temps on se dit qu'ils ont passé un vrai cap, c'est-à-dire que pour que Trump imagine qu'on les fait prendre en tutelle par les Turcs, les Égyptiens, les Qataris, c'est qu'il se rend bien compte qu'ils ne sont pas faciles à maîtriser, et au fond il est en train de laisser la porte ouverte à une solution différente, mais il ne veut pas l'avouer. Et puis, ouais. Bon, ça on verra. On verra, mais voilà un point important. Alors, ça débouche sur une dernière considération, qui est la considération sur la question des deux États.
C'est ça.
Car si vous réduisez la Palestine à un village ceinturé de murs, une route contrôlée par les Israéliens, puis un autre village 10 km plus loin ceinturé de murs et aucune terre à cultiver, vous faites un État quoi ? Là, c'est pas un État, hein. C'est un confetti. Bon, donc, c'est pas possible. Dans l'état actuel des choses, ça n'est pas possible, deux États. Alors je veux bien, je suis réglo avec la diplomatie internationale, l'ONU a voté qu'il y aurait deux États, c'est très bien, on reconnaît la France, Macron reconnaît l'État palestinien, mais en fait, soyez sérieux, où le mettez-vous ? Soyez précis. Et moi je partage, dans les manifestations pour la Palestine, il est dit « de la terre au Jourdain ». De la mer au Jourdain, c'est clair, parce que le territoire de la Palestine, il est là, et il n'est pas là depuis 1948, il est là depuis 2000 ans. C'est ça qui est tout à fait clair. Alors, je veux bien qu'au niveau des diplomates, officiellement, on dise l'ONU a dit deux États, etc. En fait, c'est plus possible. Alors, c'est pas encore mûr. Le débat n'est pas encore mûr. Je pense qu'il est bien mûr dans la tête des Palestiniens. Il n'est évidemment pas mûr dans la tête des Israéliens et surtout des sionistes. Mais il faudra bien qu'on en arrive à parler réellement. Un État, ça fonctionne avec un territoire sur lequel il est maître de son de ses destins, sur lequel il a la gestion des ressources en eau, il a la gestion des communications et tout ça. Ça, c'est pour la suite.
J'ai l'impression que, je ne sais pas si je me trompe, allez. Qu'ils veulent faire un pays palestinien, mais uniquement Gaza. La Cisjordanie, tout ça, c'est voilà. Israélien.
Oui, comme ils sont en train de transformer Gaza en Cisjordanie, ouais. Hein, c'est le même processus.
Le même, ouais, ouais.
Découper Gaza en petits morceaux, parce qu'ils sont. Alors, j'allais dire, j'ironise, ils sont aperçus quand on mettait 2 millions de Palestiniens entre eux, même si on leur menait une vie impossible, hein, ils finissaient par devenir puissants et dangereux. Et ils s'organisaient. Et donc, ils se disent, il ne faut pas qu'ils soient 2 millions, il faut qu'ils soient 500 ici, 2000 là, etc. C'est ça la logique de la nouvelle occupation de Gaza. Donc, et ça, effectivement, ça interdit de...
Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'on négocie avec qui actuellement ? Avec le Hamas ?
Oui, revenons aux négociateurs. Non, mais c'est bien. On négocie avec le Hamas. On négocie sur le point sur lequel le Hamas est d'accord pour négocier, c'est-à-dire les échanges de prisonniers, point à la ligne.
On reconnaît.
Voilà, ben bien c'est... sûr, il est là, le pouvoir de facto, c'est bien lui qui les a, les prisonniers, effectivement. Hein. Donc on négocie avec lui, mais il est clair pour la masse qu'ils n'iront pas plus loin. Et puis ils ont bien vu que le cessez-le-feu israélien n'existe pas. Bon, donc Israël n'a pas plus que les États-Unis, ne respecte pas sa signature. Mais ça on le sait depuis longtemps. Donc effectivement, le processus de paix à la Trump, il est vide complètement. Il est aussi vide que le personnage qu'il a proféré, voilà, c'est tout.
Mais depuis... Tu vois, je te coupe, Bernard. Depuis le cessez-le-feu,
oui.
Il y a eu, il n'y a pas longtemps quand même, il y a 10 jours, 15 jours.
On est à des 100 morts par jour.
Voilà.
Oui. Ils ne respectent pas le cessez-le-feu.
Ils ne respectent rien. Ils ont dit d'ailleurs, et ça me restera toujours dans la mémoire, les Arabes, ce sont des animaux à tête humaine. Et ça me restera ancré dans mon cerveau.
Oui.
Et ça, c'est vraiment c'est pire que le nazi. Ouais. Moi, je dis.
Mais c'est pour ça, et Trump pense la même chose.
C'est
évidemment.
Comme si on disait les Noirs, ce sont des...
Oui, des êtres inférieurs. Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est bien ça. C'est bien ça qui est en train de se casser petit à petit sous nos yeux. Et ça se casse dans le sang. Parce que, de toute façon... La libération d'un peuple, quand elle passe pas par la voie diplomatique, elle passe par la lutte armée. Il est clair que depuis le 7 octobre 2022, la Palestine a commencé sa lutte de libération armée, parce qu'elle n'a pas le choix. De toute façon, c'était ça, ou mourir sur pied les uns après les autres. Donc, le cap est passé, ça prend longtemps, et ça me donne l'occasion de vous faire une petite annonce sur une initiative dans laquelle Comaguerre et Radio Galère sont complices et co-organisateurs, qui concerne deux initiatives qui auront lieu donc le vendredi 13 et je crois le samedi 14 novembre à la mémoire de Frantz Fanon. Alors Frantz Fanon, vous le savez, donc psychiatre né en Martinique, qui s'engage dans les forces françaises libres, qui ensuite fait sa médecine dans la région lyonnaise, devient psychiatre et applique la psychiatrie à la situation coloniale. C'est-à-dire qu'appliquer la psychiatrie, je le dis en quelques mots, à la situation coloniale, ça consiste à dire le colonialisme, ça rend malade psychologiquement et intellectuellement le colonisé. C'est-à-dire ça l'interdit d'être lui-même, ça l'installe dans une situation de dominé, subissant tout. Ouais. Et il ajoute, et ça c'est pour nous, il ajoute aussi, ça met à mal l'intelligence du colonisateur. Pas de ceux, les généraux qui vont tirer dans le tas, de toute la population du peuple colonisateur, parce qu'il croit, à travers ce que fait son armée, à travers le fait qu'on maltraite les colonisés, il croit lui aussi qu'il est un peuple supérieur. Et donc la maladie est des deux côtés. Alors c'est plus grave côté du colonisé, parce que vous risquez de passer d'en mourir, mais c'est grave aussi puisqu'on est en psychiatrie, hein, je rappelle, donc Fanon est un psychiatre, on est en psychiatrie, la colonisation, ça rend le colonisateur aussi malade dans sa tête parce qu'il se croit différent des autres. Et on lui a mis ça sur la tête. Hein. Alors on dit la mission civilisatrice, pas des tas de trucs comme ça. En fait, ça vous met dans cette situation-là. Il faut bien savoir, et je le dis, on est en France aujourd'hui, avec des forces politiques comme on les connaît, avec un Parlement tel qu'il est, où il y a encore des élus de la République qui sont porteurs de cette tare psychiatrique, c'est-à-dire qui considèrent les anciens colonisés comme des inférieurs. Ça s'est vu il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Écoutez bien. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ? Bon, alors, il a été voté une résolution. Alors, une résolution, c'est un texte qui est voté, c'est comme une motion dans un congrès, ça n'a pas de conséquences pratiques. Mais cette résolution, donc présentée par la droite et l'extrême droite, donc on mettait Retailleau, Darmanin, etc., et le Rassemblement national dans la même charrette, ouais, dit qu'il faut supprimer les accords de 1968 entre la France et l'Algérie. Qu'est-ce que ça voulait dire, ces accords entre la France et l'Algérie ? Ça voulait dire qu'effectivement, par rapport au droit de la migration, qui vous savez est un droit compliqué, sur la France accumule les textes, etc., par rapport au droit de la migration, les Algériens ont, du fait de ce que nous leur avons fait, un traitement particulier, du fait de l'intensité des relations, du fait que les familles se retrouvent souvent des deux côtés de la Méditerranée, tous ces phénomènes-là qui sont connus, bon, ils ont droit à un traitement particulier, c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer facilement sur le territoire français. Ce que veut le Rassemblement national, c'est dire c'est fini, on les traite comme des gens de l'extérieur et donc on ne les laisse pas rentrer, c'est dehors les Algériens. C'est ça que ça veut dire. Alors la motion passe avec une voix d'avance, 183 sur 182. Hein. Elle n'engage à rien, mais elle montre bien ce que je vous disais. Dans la tête du colonisateur, il y a aussi quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire, ça consiste à traiter des humains de façon différente selon leur couleur de peau, leur religion, leur origine ethnique, etc. C'est ça qui ne fonctionne pas bien. Donc ça, c'est l'apport de Frantz Fanon, le premier apport de Frantz Fanon. Le deuxième apport de Frantz Fanon, c'est de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire Frantz Fanon arrive fonctionnaire de la République française dans un hôpital psychiatrique en Algérie qui n'est pas encore indépendant. Et il s'aperçoit que dans un hôpital psychiatrique, qui est le plus moderne de l'Algérie à l'époque, des départements algériens, comme on disait, il y a deux parties, il y a deux moitiés dans l'hôpital, et on ne traite pas les malades mentaux arabes comme les malades mentaux européens. Ah ! Et lui, il considère qu'il y a une erreur fondamentale. Donc il commence à mélanger ça. Il les fait jouer au ballon tous ensemble. Il leur parle, etc. Alors il ne parlait pas l'arabe lui-même, il s'y est mis un peu, mais il avait autour de lui des infirmiers psychiatriques algériens qui avaient compris la mécanique. Donc il se met à comprendre le FLN. Parce qu'il reçoit des gens du FLN qui ont été massacrés par la torture, qui sont dans l'hôpital psychiatrique. Et il les fait parler. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Comment? Etc. Et il découvre la réalité de l'occupation militaire française. Et à un beau moment donné, il écrit au gouverneur général de l'Algérie, qui était le socialiste Robert Lacoste, et il dit « Salut, je vous ai assez vu, je m'en vais. Je ne travaille plus pour la République française. » Et il s'en va à Tunis, où siège le gouvernement provisoire de la République algérienne, et il devient en gros l'éditorialiste du quotidien du gouvernement provisoire de la République algérienne, El Moudjahid. Voilà. Et là, il va faire alors tout un autre travail, c'est-à-dire que d'une part, il va écrire, et puis il va aussi, on va lui confier une mission pour montrer que la décolonisation, ça ne doit pas s'appliquer seulement à l'Algérie, mais ça doit s'appliquer aussi aux pays du Sud, c'est-à-dire au Mali, au Sénégal, etc. Et il va aller voir tous ces gens-là. Il va rencontrer le dirigeant du Ghana, Nkrumah, qui était un des grands penseurs de la décolonisation, mais du côté des colonies anglaises. Et là, il va mettre au point un système militaire d'assistance, c'est-à-dire il dit en fait, si l'ensemble des pays africains colonisés, l'Algérie et puis tous ceux du sud du Sahel, comme on dit, se mettent ensemble, là l'armée française ne pourra pas tenir le coup très très longtemps. Malheureusement, cette idée géniale, il n'a pas le temps de la mettre en œuvre puisque la leucémie l'emporte à 36 ans. Donc on a affaire à un personnage de très grande carrure intellectuelle à l'évidence, et puis carrure même logistique, de pensée stratégique, quand il commence à comprendre ce que c'est que la colonisation vue par les colonisés. Il va en particulier, et j'insiste parce qu'on y reviendra dans les séances qui auront lieu donc le week-end prochain à Marseille, organisées par Radio Galère, il va en particulier mettre le doigt sur le fait que le colonisateur va toujours chercher à sélectionner une couche de coloniser qui va passer à son service. C'est-à-dire, on n'envoie pas tous les enfants d'Afrique ou d'Algérie à l'école, on en envoie un certain pourcentage, peut-être pas forcément les plus brillants, qui vont être éduqués, qui vont être préparés à devenir les gouverneurs futurs de la colonie décolonisée. C'est ça. Donc, trouver une couche de la petite et moyenne bourgeoisie à qui on fera faire le travail d'encadrer les masses colonisées au nom du colonisateur qui, lui, se déchargera du travail quotidien. Donc, il tirera les ficelles. Et c'est comme ça, il y a un très, très beau portrait, je le cite, de Houphouët Boigny dans les écrits de Frantz Fanon, où il a dit Houphouët Boigny est choisi. Houphouët Boigny, qui fut ministre de la 4e République française, il est choisi pour, effectivement, encadrer les Ivoiriens faussement indépendants. Voilà, ça, c'est l'annonce pour Fanon, qui méritait d'être dite. Dernière chose que je voulais aborder. Ah oui, on va passer. On avait dit qu'on avait passé donc Ibrahim Traoré la semaine dernière. Alors ce que je précise, alors puisqu'on parle d'Ibrahim Traoré puis on parle de l'AES, il faut savoir qu'il est sorti ces dernières semaines toute une série de dépêches sur la situation au Mali, qui paraît-il s'aggraverait, l'équipe au pouvoir serait débordée par les terroristes islamistes, etc., etc. Alors ça a été... Et puis on a appris récemment, parce que c'était ça qui était derrière, qu'il y avait une mission des États-Unis d'Amérique, donc des militaires, des diplomates, qui étaient venus visiter ces pays de l'AES, je rappelle, donc Burkina Faso, Mali et Niger, pour leur dire que s'ils avaient besoin qu'on les aide contre les terroristes islamistes, l'armée des États-Unis pouvait les aider. Alors regardez la perversion. D'une part, vous fabriquez, vous armez les terroristes islamistes. Après, vous venez voir les gens qui sont victimes du terrorisme islamiste. Vous savez, on va vous aider. C'est-à-dire, vous leur donnez le pouvoir pour qu'ils éliminent les gens que vous avez fabriqués vous-même. C'est ça l'opération qui est en cours. Donc, restez calme. Le Mali ne va pas tomber. Mais simplement, il y a cette opération qui a été fabriquée par les États-Unis qui n'a pas marché. Les émissaires des États-Unis sont venus. On les a reçus poliment. Puis on leur a dit merci, on se débrouille, on est assez grand, rentrez chez vous. Mais c'était ça qu'il y avait derrière. C'est-à-dire que le terrorisme islamique, c'est une fabrication depuis le début des États-Unis. Et donc, on agite le terrorisme islamique et puis voilà, on dit, je vais vous sauver du terrorisme islamique. Alors, puisque j'en suis au terrorisme, tant qu'on y est, continuons. Il y a eu ces derniers jours une opération assez exceptionnelle dans une favela de Rio de Janeiro. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une favela de Rio de Janeiro ? Vous avez tous la baie de Rio de Janeiro en tête, donc un immense lagon avec le pain de sucre, etc. Et puis des collines sur les bords, hein, où sont installées, dans les collines, sont installées des favelas, donc des bidonvilles, qui ont un peu durci depuis le temps, mais c'est des bidonvilles. Alors, ces bidonvilles étaient d'abord des lieux de rassemblement de la pauvreté, de la précarité, ouais, etc. Et puis, ils sont devenus, comme par hasard, des lieux de trafic de drogue très, très importants. Et donc, qui dit trafic de drogue dit gros moyens financiers, armements lourds, pratiques beaucoup plus violentes, etc. On n'est plus dans la simple précarité, dans la simple misère, on est dans toute autre chose. Et qui on a trouvé ? Qui on a trouvé ? Alors, donc, il y a une opération policière et militaire de haute volée, hein, puisque 2500 hommes mobilisés, etc. Bon, qui on a trouvé au milieu de ces favelas brésiliennes, autour donc de la bande brésilienne qui était connue, des Ukrainiens. Ah bon ? Eh oui, parce qu'il faut savoir, tout est dans tout maintenant, des Ukrainiens, ce qu'on appelle des Ukrainiens, ouais, c'est des gens qui se sont battus sous l'uniforme de l'armée ukrainienne, mais c'est pas forcément des Ukrainiens, ça peut être des Colombiens, c'est qu'il y en a beaucoup, ça peut être des Ouïghours, ça peut, il y avait des Brésiliens. Donc il y avait des ukrainio-brésiliens qui étaient là et qui faisaient marcher le trafic de drogue. C'est-à-dire qu'en fait, on a, et je vais finir là-dessus parce que c'est très très important de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a eu à l'Assemblée générale de l'ONU, comme tous les ans à la même époque, un vote pour demander la levée de l'embargo et du blocus de Cuba. C'est un classique, ça fait 30 ans que ça dure. Tous les ans, il y a un vote à l'Assemblée générale. À la quasi-unanimité, l'Assemblée générale de l'ONU vote pour la levée de l'embargo.
Sauf.
Ça ne fait rien, puisqu'on sait que les résolutions de l'Assemblée générale ne valent rien. Mais de toute façon, c'était le vote des États-Unis, était opposé à les États-Unis et Israël. Bon, c'était tout, et c'était classique. C'était toujours tous les ans le même vote depuis 30 ans. Et il se trouve... Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Il se trouve que cette année, le nombre de votants contre la levée de l'embargo a augmenté. Qui s'est ajouté à Israël et aux États-Unis ? Alors vous allez voir, c'est très très intéressant pour la suite. L'Ukraine, évidemment. Le Paraguay, on en parle peu. L'Argentine de Milei, évidemment. Hein ? Et oui, voilà. Et quelques autres. Donc, 7 pays ont déjà. Et puis d'autres ont suivi, d'autres se sont abstenus. Se sont abstenus la Moldavie, la Roumanie, enfin tous les pays de l'Union européenne. Alors, et dans les 7, il y en a un qui mérite notre attention, c'est Viktor Orban, c'est la Hongrie. La Hongrie fait partie désormais de l'internationale fasciste de Trump. C'est ça qu'il faut qu'on ait dans la tête comme leçon. Alors, il était un peu inquiétant, Orban. On dit Orban ceci, Orban cela. Maintenant, c'est clair, il est du côté des fascistes et il est d'accord. Alors, ça me remet en mémoire, et ça vous remet peut-être en mémoire, la fameuse invitation d'Orban à une réunion à Budapest entre Trump et Poutine. C'est une idée qui venait de Poutine, venait de Trump et de Orban. Ouais. Et Poutine a décidé de ne pas venir parce qu'il s'est dit, mais je passe où ? Je mets les pieds à quel endroit, là ? Poutine, il avait eu le nez creux, parce qu'il savait d'abord qu'il fallait survoler d'autres pays de l'OTAN qui ne lui sont pas très très favorables, la Pologne, la République tchèque, etc. Et donc, ça n'a pas eu lieu pour ça. Le piège était tendu.
Ouais, c'était...
Donc c'est clair aujourd'hui. Alors c'est d'autant plus clair. Alors ça devient très très intéressant parce que ça a des conséquences sur l'Union européenne. Qu'est-ce qui vient de se passer, c'est il y a de ça 48 heures ou 24 heures. Monsieur Orban et Madame Meloni d'Italie. Du parti Fratelli d'Italia, fasciste reconnu et qui se veut comme tel, ont passé un accord pour dire qu'ils ne supportaient plus les méthodes de travail de l'Union européenne. Ça veut dire que l'Union européenne est en train d'éclater sous nos yeux. Alors, entre deux camps, un camp, en gros, atlantiste, puisqu'il faut se rappeler que Mme von der Leyen a à peu près tout vendu à Trump dans les accords commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis, et un camp carrément fasciste à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, c'est porteur, à mon avis, d'un éclatement de l'Union européenne à terme, mais c'est intéressant de voir que c'est le camp fasciste qui le fait éclater, avec l'espoir que ce camp fasciste va s'étendre dans d'autres pays d'Europe continentale. Suivez mon regard. Vous avez vu ce que ça veut dire, hein? Parce qu'il y a aussi, dans différents pays d'Europe occidentale, des gens qui veulent faire la même chose. Hein? Donc on a affaire à une Union européenne qui est grosse d'un conflit, ben, probablement d'un éclatement, mais pas d'un éclatement progressiste, un éclatement entre les atlantistes et les fascistes. On a du pain sur la planche. On a du pain sur la planche, mais il faut qu'on le voit bien clairement dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ça, c'est très très intéressant. Dernière chose.
Ouais.
Ah oui, parce que c'est bien ça. Mais en fait, les cartes sont beaucoup plus sur la table qu'elles n'ont jamais été. C'est-à-dire, on voit où sont les fascistes. On voit que les fascistes, ça s'étend y compris jusqu'à Retailleau, etc. On a très très bien compris. Il n'y a pas de souci. On voit que dans d'autres pays, il faut savoir que le gouvernement britannique, il est aussi traversé par ce genre de courant. En Allemagne, ça existe aussi. Enfin, il y a un vrai danger. La seule satisfaction qu'on a eue ces derniers jours, c'est que le parti fasciste néerlandais a été battu aux élections. Bon, c'était le seul bon signe qu'il y a, mais il y en a de temps en temps. Il faut bien qu'il y en ait. L'histoire n'est pas jouée complètement. Dernière chose, et puis on finira là-dessus. Quelques mots sur le Soudan.
Oui, alors, je te le demandais.
Voilà, alors le Soudan, tout d'un coup, alors les dépêches d'agence, ouais, le Soudan.
Comme s'il y avait absolument.
Il y avait le feu. Alors,
il
y a
été oublié.
Voilà, ça avait été totalement oublié. Alors, soyons clairs, moi je me suis rabattu, mais ça me paraît très cohérent, je ne l'ai pas ajouté. Sur une analyse qui est très très correcte du Parti communiste sud-africain, qui dit on a affaire à deux clans, ils ne valent pas mieux l'un que l'autre.
Non.
Il y en a un qui est au pouvoir officiellement, qui est reconnu internationalement, l'autre qui n'est pas au pouvoir, mais qui travaille pareillement. Ce sont de toute façon des clans militaires qui pillent le pays, chacun dans le coin où il est, avec les ressources qu'il y a ici. Voilà, d'un côté, il y a de l'or, de l'autre côté, il y a du pétrole, etc. De toute façon, le Soudan est un pays où la population ne peut pas s'exprimer et où elle n'a pas le pouvoir. Donc, il y a deux milices armées, une officielle, l'autre moins officielle, c'est tout. Et qui tuent des gens à longueur de journée. Alors il y en a une qui est plus à l'est, hein, les RFS, comme on dit, qui est plutôt du côté du Tchad, et l'autre qui était plutôt du côté mer. Hein. Mais il s'agit du pillage. Il faut savoir qu'interviennent internationalement dans ce pays pour continuer à faire s'entretuer les Soudanais. Israël, les Émirats Arabes Unis en particulier, les Ukrainiens. Ben, y a beaucoup de monde pour mettre le feu et donner des armes, etc. Parce que c'est un pays pas très riche. Bon. Il faut se rappeler aussi, puisque j'ai cité Israël, que quand le Soudan a été explosé, c'est-à-dire qu'il a été créé un Sud-Soudan, c'était Israël qui avait découpé un morceau du Soudan pour qu'il soit moins gros. Ouais. Parce que le Soudan n'était pas aimé par Israël, parce que le Soudan était un soutien puissant, permanent, de la cause palestinienne. Et donc ça faisait tâche, il fallait pas. Donc... On a enlevé au Soudan une partie, sa moitié sud, qui vivote difficilement, qui est en proie d'ailleurs à une espèce de guerre civile entre deux clans. Ouais. Et puis maintenant, on fait s'entretuer le reste, hein, de telle façon qu'il n'y a pas de puissance soudanaise réelle. Et cette puissance soudanaise ne pourrait passer que par l'élimination de ces groupes armés. Bon. C'était l'essentiel qu'il fallait dire. Mais que ça remonte tout d'un coup, ça veut dire qu'effectivement, il y a des considérations qui sont en train de se faire pour savoir, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un de ces deux camps-là qui gagne définitivement pour que les choses se calment et qu'on en arrive à une ouverture sur une population civile ? Ce n'est pas impossible, mais ce qui était frappant, et tu l'as noté comme moi, c'était que tout d'un coup, toutes les communiqués de presse, on parlait que du Soudan à longueur de journée, alors que les massacres actuels durent depuis deux ans sans interruption. Ouais. Mais on ne disait plus rien. Ah, un Soudanais, ça meurt, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, ben c'est pas comme ça, et je pense qu'on est face à un facteur d'évolution, c'est-à-dire
Il y a eu un massacre terrible.
Terrible, hein, ben on parle de 300 000 personnes. Ouais, on parle de 300 000 personnes massacrées. Donc ça, il faut que ça cesse, mais ça veut dire que dans les coulisses de la politique internationale, il y a un certain nombre de puissances qui doivent dire maintenant, il faut trouver une issue à cette situation-là et que le Soudan redevienne un pays normal. Ce qui n'est pas parce que ni Israël ne le voulait, ni les Ukrainiens ne le voulaient, ni les puissances fascistes ne le voulaient. Bon. Donc, le côté normalisation, je pense, est défendu par un certain nombre de gens. C'est ce que nous verrons dans les semaines qui viennent. Donc, je vous rappelle l'initiative...
Le Venezuela, on n'a pas parlé.
Alors, une minute Venezuela. Ah, alors, simplement, un fait. Il y a un traité d'assistance stratégique entre la Russie et le Venezuela. Ouais. Ce traité a été voté par la Douma, il vient d'être ratifié par le président Poutine, donc ce traité est en application. J'en dis pas plus.
Il s'est joint la Chine et l'Iran. Il ne faut pas oublier ça.
Il n'y a pas de souci. Donc, Alors, je fais le pronostic, je dis, il n'y aura pas d'attaque du Venezuela.
Voilà.
On en reparlera.
On en reparlera plus tard, on verra bien. Mais il y a beaucoup de choses qui se préparent.
Mais voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Swan. Et à très bientôt.
Comment elle s'appelle ?
Swan.
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 Ah, S-O-U-A-N.
H, oui.
Ah, Swan.